Bonjour Gérard Longuet.
Bonjour.
François Hollande et Nicolas Sarkozy ensemble en Afrique du Sud pour l'hommage à Nelson Mandela. Est-ce que c'est une image à laquelle vous êtes sensible ?
C'est en tous les cas l'image d'une république habituelle. Les États-Unis le font, d'autres pays avaient cette tradition. Nous, le président Sarkozy l'a fait d'ailleurs lui-même. Il est bien que le président Hollande le fasse, associer la continuité française et d'une certaine façon les deux grandes familles françaises.
Est-ce que la polémique sur les deux avions et donc sur le coût du voyage a lieu d'être ?
Oui, les pouvoirs publics, ça coûte.
Oui, donc c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être.
Minime.
Un débat sur l'intervention en Centrafrique va avoir lieu aujourd'hui au Parlement. Quelles informations, quelles précisions en attendez-vous ?
Principalement le projet politique. Vous l'avez rappelé, j'ai été ministre de la Défense. L'armée n'a de sens que si elle défend un projet politique. Quelles sont les ambitions de la France en Centrafrique? Que voulons-nous faire? Jusqu'où voulons-nous aller? Nous avons un système politique à reconstituer, un président de transition dont François Hollande nous fait clairement comprendre qu'il n'a simplement aucune autorité. Une administration à reconstruire et naturellement un ordre public à consolider, et ce ne sont pas les 1600 soldats français qui peuvent tout faire sur l'ensemble du territoire. Il y a donc une véritable interrogation, quels appuis et à partir de quel moment et dans quelles conditions la relève des soldats français sera-t-elle possible ?
Vous avez l'impression que sur tous ces points, pour l'instant, les choses ne sont pas assez claires ?
Elles ne sont pas assez claires. Il est d'ailleurs normal qu'elles ne le soient pas. Pour être très honnête, ce n'est pas un procès ou un grief qu'on adresse au gouvernement. Le gouvernement a eu raison d'intervenir. Ne pas intervenir eût été accepter les massacres et accepter d'être des témoins passifs. Mais ce n'est pas parce que l'on intervient à juste titre, à très court terme, qu'il faut s'épargner le devoir de réfléchir sur le plus long terme.
Vous parliez du nombre, 1600 soldats pour régler toutes les questions que vous avez évoquées.
En réalité, 1600 soldats, ça permet, je l'espère, je le pense profondément, de ramener une paix apparente et au moins en surface dans la capitale. Mais la capitale, c'est important parce que c'est dans la capitale que se créent les débats politiques qui permettront, je l'espère, d'arriver à une forme de conciliation ou en tous les cas à une procédure acceptée et reconnue par les différentes parties.
Est-ce que vous croyez que les groupes armés vont opposer une résistance importante aux troupes françaises ?
Je pense que c'est un exercice militaire extrêmement difficile. Parce que nous avons une force qui est pour l'essentiel extérieure à la ville de Bangui, qui a exercé un pouvoir apparemment absolu pendant quelques mois et qui doit se replier. L'idéal, naturellement, est d'arriver à une séparation pour que le temps fasse son œuvre apaisante et en particulier renvoyer dans les casernes ceux qui avaient tendance qui en étaient sortis ou qui sont extérieurs à Bangui et qui plastronnaient l'arme à la bretelle il y a quelques jours encore. Je crois que la meilleure façon d'éviter des massacres, c'est sans doute de renvoyer les combattants dans leurs casernes respectives. Cela étant, c'est pas si facile que ça, et les procès d'intention dans une guerre civile, nous le constatons dans le monde entier, sont permanents. La tâche de l'armée française est extraordinairement difficile.
Le délai de 4 à 6 mois vous paraît tenable ou est-ce qu'on voit un peu court ?
Je le souhaite, mais je n'y crois pas du tout, parce que de deux choses l'une, ou bien, ce que je le pense, nous réussissons et nos partenaires nous demanderont de rester parce que justement on a réussi, ou bien au contraire on est confronté à des tensions que nous n'arrivons pas à maîtriser autrement qu'en contrôlant chacune des parties en permanence, et nous serons aussi obligés de rester. Donc, si vous voulez, on ne transformera pas la République centrafricaine et sa capitale en l'espace de quelques semaines en un canton helvétique.
L'expression « gendarme de l'Afrique » revient régulièrement. A-t-elle lieu d'être ?
Alors, en l'espèce, oui. Je pense que la France, et c'était vrai avec le président Nicolas Sarkozy, c'est vrai avec le président Hollande, souhaite que les Africains prennent eux-mêmes leurs responsabilités. Il y a d'ailleurs des organisations interafricaines qui s'emboîtent comme des poupées russes et qui sont là pour faire ce travail. il se trouve que concrètement, il fallait intervenir et qu'aucune force africaine n'était en mesure de le faire.
Donc la France doit assumer cette position elle doit amorcer, gendarme de l'Afrique.
Alors l'idéal serait qu'elle amorce des mouvements, qu'elle crédibilise ses interventions et qu'elle puisse se retirer sur la pointe des pieds. Compte tenu de l'état des forces militaires instituées en Afrique, c'est assez peu vraisemblable, parce que les pays de la zone disposent de moyens extrêmement modestes, et d'ailleurs c'est normal, la dépense militaire n'est pas la priorité de ces pays, c'est bien qu'il en soit ainsi, mais la contrepartie c'est qu'en effet, quand ils vous constituent un contingent international, les contributions sont modestes, et on ne peut pas leur en vouloir d'avoir des contributions modestes, ça veut dire qu'ils n'ont pas de grosses dépenses militaires.
Donc en attendant, la France doit assumer sa position.
Très clairement. Au moins dans les pays avec lesquels elle est liée, ce qui est le cas de la Centrafrique par des accords.
Est-ce que vous voyez une différence entre la politique africaine de François Hollande et celle de Nicolas Sarkozy?
En tous les cas, Nicolas Sarkozy a ouvert une période qui était celle, premièrement, des accords bilatéraux publics, ratifiés par le Parlement, et d'intervention française sous mandat des Nations Unies. Donc la transparence. Il se trouve que cette politique nouvelle, le président Hollande la poursuit. Tant mieux, car je n'imagine pas d'intervention française qui ne soit pas des interventions soit dans le cadre d'accords bilatéraux, soit consolidées, autorisées par des résolutions des Nations Unies. La France n'est pas un gendarme autoproclamé. C'est le bras séculier de décisions internationales.
La France veut rester une grande puissance, on le voit à travers ses interventions. Est-ce qu'elle pourra le faire en réduisant indéfiniment le format de ses armées?
Non. Je pense que nous avons le devoir, si nous voulons tenir notre rang dans le monde, celui de membre permanent du Conseil de sécurité, celui avec l'Angleterre, le pays européen capable d'intervenir en premier. Nous sommes au taquet de la dépense militaire et, d'une façon générale, s'il n'y a pas un rétablissement significatif des finances publiques, dans 5 ans, il ne sera plus possible de conduire ces opérations. Je ne dis pas demain matin, mais dans 5 ans, oui, nous ne pourrons plus les conduire.
Un article controversé de la loi de programmation militaire va être examiné aujourd'hui au Sénat. Il permettrait, s'il était adopté, à des agents de plusieurs ministères de récupérer des quantités très importantes de données privées sans passer par l'aval d'un juge. Y êtes-vous favorable?
Alors je vais regarder ce texte avec beaucoup d'importance parce que, pour la raison que l'on combat le terrorisme, on autorise des mesures qui sont en effet parfaitement attentatoires aux libertés individuelles. Et le juge en France est le gardien des libertés individuelles plus sûrement, enfin au moins autant, que les commissions administratives. Et ce que je constate de cet amendement à l'article 13, c'est qu'au fond, on va donner à des administrations qui ont des préoccupations tout à fait différentes, et par exemple des préoccupations fiscales, des moyens qui sont dérogatoires au principe de liberté. Internet reste une forme de correspondance, et le secret de la correspondance fait partie des droits absolus. La géolocalisation, prenons cet exemple très concret, la géolocalisation, si elle est contrôlée par un système public, fait que à tout moment, l'administration pourra vous demander des comptes sur le fait que vous étiez à tel ou tel endroit. C'est très préoccupant en termes de liberté publique, en effet.
Merci Gérard Longuet. Bonne journée.